Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Nous sommes ensemble pendant une heure pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Aujourd'hui, notre émission sera entièrement consacrée au discours du président russe Vladimir Poutine au club de discussion Valdaï. Plusieurs experts se succéderont à notre micro pour décrypter les différentes thématiques abordées par le chef du Kremlin.
On entend sans cesse, vous devez, vous êtes obligés, nous vous donnons un sérieux avertissement. Mais qui êtes-vous pour nous parler comme ça? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit? C'est tout simplement incroyable. Peut-être que vous devriez vous débarrasser de votre arrogance. Arrêtez de vous comporter comme cela vis-à-vis de la communauté mondiale, qui comprend parfaitement ses tâches, ses intérêts. Il est temps de se débarrasser de cette pensée coloniale. Je veux dire, ouvrez vos yeux, cette époque est terminée et ne reviendra jamais. Jamais.
La 20e édition du club de discussion Valdaï s'est tenue à Sotchi cette semaine. Il doit son nom au lac Valdaï, situé à côté de la ville russe de Veliki Novgorod, où a eu lieu la première réunion du club en 2004. Cette année, 140 experts, hommes politiques et diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, se sont réunis pour discuter du thème suivant. Multipolarité équitable, comment assurer la sécurité et le développement pour tous ? Le président russe Vladimir Poutine a fait le déplacement à Sotchi, où il a fait un long discours. Et pour analyser les propos du chef du Kremlin, je vous présente Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, Filani Mtembu, directeur exécutif de l'Institut pour le dialogue mondial, ainsi que Jafar Gueletou, directeur exécutif adjoint de l'Institut des affaires étrangères auprès du ministère des affaires étrangères de l'Éthiopie. Et sans plus attendre, écoutons tout de suite un extrait de l'intervention de Vladimir Poutine.
Le concept de la politique internationale de la Russie qui a été adopté cette année décrit notre pays comme en état civilisation authentique. C'est cette formule-là qui explique notre compréhension de notre propre développement, mais aussi de notre compréhension des principes essentiels de l'organisation de l'ordre mondial. Et nous espérons que ces principes vont faire rien. Et on peut avoir de différentes interprétations, mais il y a un monde soi-disant civilisé qui doit servir de l'exemple pour le monde entier et tout le monde devrait suivre ces standards, ces exemples. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils seront forcés à rentrer dans cette civilisation avec une matraque du maître bien illuminé. Alors, ces temps-là, c'est fini. Et notre compréhension de la civilisation est tout à fait différente. Tout d'abord, les civilisations sont nombreuses et aucune d'entre elles n'est pas meilleure ni pire que les autres. Ces civilisations sont égales, comme elles reflètent les attentes de leur peuple. Pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de très authentique. Et pour moi, il s'agit des sentiments de mon peuple dont j'ai l'honneur d'être représentant. Dans le monde entier, les partisans des approches civilisationnelles continuent leur réflexion à propos de la notion même de la civilisation. Il s'agit d'une notion multifonctionnelle. Pour ne pas rentrer dans les profondeurs philosophiques, je vais essayer de donner l'explication assez concrètes, valables pour le jour d'aujourd'hui. Les qualités essentielles de l'état civilisationnel, c'est la diversité et l'authenticité. Le monde contemporain court toutes sortes d'unifications. Chaque État, chaque société désire d'élaborer elle-même leur voie de développement en se basant à sa culture et à sa tradition renforcée par la géographie et l'expérience historique longtemps ou récent. Il s'agit aussi de faire suivre ces valeurs, une synthèse compliquée qui fait naître une authenticité civilisationnelle. Et cette diversité et authenticité, c'est le gage du développement. Pendant des siècles, la Russie a été formée comme un pays de plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs nationalités. La civilisation de la Russie ne peut pas être réduite à un seul dénominateur, mais elle ne peut pas être divisée non plus, parce que ça n'existe qu'en son ensemble. Garder l'unité dans un tel état, c'est une mission pas aussi simple que ça. Pendant des siècles, on a dû surmonter des défis que nous avons surmontés, parfois ayant payé en lourd fardeau. Mais tout ça a fait renforcer notre unité et l'intégrité de l'État russe. Aujourd'hui, cette expérience n'est pas à sous-estimer. Le monde est de plus en plus diversifié. On ne pourra jamais résoudre tout le problème complexe en égalisant tout le monde. Il est à mentionner qu'un système efficace et valable ne peut pas être inspiré de l'extérieur. Ce système doit grandir à partir des racines civilisationnelles des peuples et des pays. Et la Russie est l'exemple de cette création du système organique. Ce support civilisationnel nécessaire pour avoir du succès dans ce monde compliqué, déboussolé d'aujourd'hui. Les pays sont de plus en plus nombreux à tirer cette conclusion en étant conscients de leurs propres intérêts et leurs propres besoins, leurs capacités et leurs restrictions, et le niveau de leur interaction avec le monde extérieur.
Monsieur Nabaloum, Poutine a dit que ceux qui n'étaient pas d'accord avec le modèle de civilisation occidentale étaient forcés d'y entrer avec une matraque. Connaissez-vous des exemples de pays forcés d'adopter le modèle occidental? Et où cela a-t-il mené les populations de ces pays et leurs dirigeants?
C'est une réalité qui s'est traduite surtout pour la France. Lorsqu'on regarde tout ce qui a été comme colonie française et qui est devenu aujourd'hui la France-Afrique, c'est toujours caractérisé par ce modèle-là. Donc, l'Occident pendant plusieurs décennies, inculqué, imposé son mode de civilisation et à telle enseigne que certains Africains étaient même amenés à douter de leur propre culture, de leur propre civilisation, même de l'éthique. Comment cela a été possible? Cela a été d'abord possible par la colonisation qui a été caractérisée par la force et le lot de désolation, de mort et de torture, d'humiliation de nos ancêtres que le monde occidental a exercé sur nos populations, les contraignant effectivement à la soumission et à la domination. Et par la suite, lorsque les indépendances se sont annoncées, il a fallu simplement changer de position et c'est là qu'on a constaté la mise en place d'un certain nombre d'instruments dont les bases militaires qui se sont implantées un peu partout en Afrique. Et pour la France singulièrement, c'était pratiquement dans tous les États. Donc ces instruments-là avaient pour simple objectif de maintenir la domination sur les dirigeants, parce que c'est les dirigeants qui donnaient des orientations. Donc il fallait trouver un mécanisme pour contrôler, surveiller, matraquer ces dirigeants-là pour qu'ils puissent appliquer la volonté de leur maître. Et ça s'est caractérisé par les différents, je dirais, attentats de présidents qu'on a connus, notamment les présidents qui se sont illustrés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, qui se sont opposés à cette volonté-là. Je vais citer récemment Kadhafi, je vais citer Thomas Sankara, Patrice Lumumba, je vais citer aussi Omar Bongo, en passant par Mobutu. C'est autant d'exemples qui caractérisent ce matraquage-là, cette violence faite sur nos populations et nos dirigeants pour qu'ils se soumettent au monde occidental. Ça s'est caractérisé aussi par des instruments comme les Bretton Woods qui se sont illustrés à travers le temps comme étant des instruments pour favoriser la prédation sur les ressources et les richesses de l'Afrique, parce que depuis que la domination a commencé, l'Occident a égrené ce qu'on appelle le lot de chapelet de caractère pour dire que nos pays sont pauvres, nos populations sont pauvres, elles ne sont pas civilisées. Tout ça simplement pour nous maintenir dans la domination, pour montrer que c'est eux les maîtres et qu'il fallait suivre le chemin qu'ils ont dicté. Nous avons compris avec le temps que c'était une façon de voiler la face des populations conscientes afin qu'elles ne se réveillent pas, qu'elles ne comprennent pas que effectivement nos pays là sont extrêmement riches, nos pays sont extrêmement riches, et pour pouvoir piller nos richesses là, il fallait organiser tous ces scénarios là pour nous embrigader, pour nous maintenir dans la domination. Et aujourd'hui, le panafricanisme, depuis son avènement à travers les pères fondateurs qui ont été farouchement combattus au prix de leur vie, n'a cessé de progresser parce que, au fond de certains êtres africains, ils sont conscients qu'il y a un jeu qui se cache derrière tous ces modèles, qui se cache derrière tous ces instruments-là, et qu'il faille continuer la lutte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous poursuivons toujours cette lutte-là. Vous avez vu, entre autres, les guerres médiatiques qui se sont organisées d'abord à travers les films, mais à travers aussi les langues qui nous ont été imposées. Et par la suite, le mode culturel qui ont été imposés. Mais malgré tout ça, nous sommes restés résilients et nous continuons de rester résilients. Nous continuons de mener la lutte et nous allons poursuivre la lutte. Et nous savons très bientôt que c'est un nouvel ère qui est en train de s'annoncer pour l'Afrique. L'Afrique indépendante, l'Afrique véritablement souveraine va s'exercer. Et si tout va bien, dans peu de temps.
Et vous, Monsieur Mtembu, qu'est-ce que vous avez retenu de cette partie du discours du président russe?
Je pense que même si certains pays ne se considèrent pas comme des États civilisationnels, ce qu'ils peuvent retenir de ce discours, c'est l'importance de l'autosuffisance. L'autosuffisance en matière de développement technologique, de développement économique et de toute une série d'autres choses. En effet, l'autosuffisance permet également de gagner en confiance et de mieux se faire entendre dans les relations internationales. Je pense donc que l'importance de l'autosuffisance et son lien avec la souveraineté est un message très fort, non seulement dans le discours, mais aussi dans la discussion elle-même.
Monsieur Guelletou, quelle analyse pouvez-vous nous faire de la présentation par Vladimir Poutine des relations entre les grandes puissances et la situation mondiale actuelle ?
Son Excellence, le président Vladimir Poutine, nous a présenté clairement la situation mondiale actuelle et les relations entre les grandes puissances, en expliquant que le système mondial doit être multipolarisé, démocratisé et diversifié. et que toutes les voix doivent être entendues. Tous les pays doivent être traités sur un pied d'égalité. Leur souveraineté et leur indépendance doivent être protégées. Le système mondial, les institutions politiques et économiques doivent être organisées de manière à prendre en compte l'indépendance, la souveraineté et les besoins économiques des pays, qui doivent être traités sur un pied d'égalité et de manière indépendante. Nous devons reconnaître l'indépendance, la liberté des pays, leur pensée et leur histoire civilisationnelle. Il faut respecter cela plutôt que d'essayer de mouler les pays dans une seule perspective, un seul point de vue, une seule civilisation. Au contraire, nous avons une multiplicité de civilisations dans le monde. Il est donc nécessaire de tolérer, de coexister et d'établir de bonnes relations entre ces États civilisationnels, tout en respectant leurs frontières, leur culture et leurs perspectives.
Messieurs, écoutons dès à présent un nouvel extrait du discours du président russe.
Les États-Unis et leurs satellites ont pris le cap dur vers la domination, l'hégémonie militaire, politique, économique, culturelle, même morale et des valeurs. Nous avons compris tout de suite que les tentatives de faire instaurer une monopolie étaient vouées à l'échec. Le monde est trop divers, trop diversifié pour qu'on pourrait le faire inclure dans un seul cadre. Bien que l'Occident ait cette puissance accumulée pendant des siècles de la politique coloniale, et vos collègues, nombreux, qui sont absents ici aujourd'hui, mais ils nient pas que le bien-être de l'Occident a été pour la majeure partie atteint grâce à des colonies pendant des siècles. Ça, c'est le fait. En fait, un tel niveau de développement a été atteint en une forte partie grâce au pillage de la planète. L'histoire de l'Occident, en fait, c'est une chronologie de l'expansion sans fin. L'Occident, c'est une pyramide militaire et financière, une pyramide énorme, qui a toujours besoin de nouveaux combustibles pour se conforter. Elle a besoin des ressources naturelles, technologiques, humaines, des ressources des autres. C'est pourquoi l'Occident ne peut pas s'arrêter. Il n'a pas cette intention. Nos arguments, nos appels à l'esprit ont été ignorés. Un tel comportement n'a fait que la même chose. Ça n'a fait que renaître les grandes guerres. Pour justifier ces guerres, on a inventé des justifications logiques, religieuses et pseudo-morales. Aujourd'hui, le danger est plus important parce que l'humanité dispose des moyens pour détruire la planète entière. Et cette manipulation des esprits de volume inattendu sème la perte de ce sentiment de réalité. Et ce cercle vicieux, il faut trouver la sortie de cette cercle vicieuse.
Monsieur Nabaloum, Vladimir Poutine a constaté que le bien-être de l'Occident était obtenu par le pillage des colonies. Il a déclaré que l'époque du colonialisme était révolue et qu'elle ne reviendrait jamais. Le président russe a exhorté les Occidentaux à changer d'attitude et qu'il fallait trouver une sortie de ce cercle vicieux qui entraîne des guerres. Comment l'émergence d'un monde multipolaire qui va davantage s'affirmer selon Monsieur Poutine pourra-t-il y contribuer ?
Effectivement, c'est une réalité qui est en train de se mettre en place. Alors, ce qu'il faut retenir, en tout cas ce que moi je garde à l'esprit qui est encore frais, c'est ce que le feu Thomas Sankara disait. Ceux qui sont en train d'exploiter l'Afrique sont les mêmes qui sont en train d'exploiter les masses populaires en Europe et en Occident. Et c'est une réalité aujourd'hui. Même en Occident, les masses populaires comprennent que véritablement il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de sincérité entre les rapports des dirigeants et les masses populaires. Et tantôt je disais que la domination de l'Occident sur l'Afrique était essentiellement basée sur le pillage des colonies parce qu'il fallait exploiter ces colonies-là pour pouvoir alimenter, pour pouvoir organiser l'Europe, pour pouvoir montrer bonne mine aux populations occidentales. Mais fort heureusement que l'avènement, l'évolution de la technologie a permis aux Africains d'abord de comprendre que l'Europe n'est rien sans l'Afrique et le monde occidental n'est rien sans effectivement les ressources africaines. Et les populations européennes commencent de plus en plus à comprendre que il y a deux messages qui sont servis. Le message politique qui est servi aux populations européennes occidentales, ce n'est pas le même message qui est passé au niveau des populations du monde entier, du reste du monde et de l'Afrique en particulier. Ce double jeu, ce double langage a été simplement supprimé par l'évolution de la technologie, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose et c'est ce qui favorise effectivement le multipolarisme qui est en train de se mettre en place. Et je reviendrai pour dire que le monde occidental s'est toujours illustré à travers la violence pour caractériser sa domination. Longtemps, les États-Unis avaient acquis pour cause la violation et la violence sur les États pour leur imposer leur dictat, pour leur imposer leur façon de faire afin de pouvoir impunément piller les ressources à travers le monde. Ça a été le cas en Irak, ça a été le cas au Koweït, ça a été le cas en Afghanistan récemment où ils ont échoué lamentablement, et en Syrie où ils ont échoué lamentablement. Et c'est là que ils ont compris que il faut revenir sur les fondamentaux même de l'existence des États et de l'existence de l'être humain. La leçon n'est pas encore passée, mais la naissance nouvelle d'une volonté d'un monde multipolaire va effectivement conforter que ce monde-là ne peut pas être unilatéralement gouverné, ne peut pas être unilatéralement violenté, et qu'il n'y a qu'une partie qui puisse exercer, se constituer en gendarme de ce monde-là. Cette ère-là est en train de... ces vieux jours sont en train de se terminer, et nous avons foi que c'est un nouveau monde qui se dessine, et ce nouveau monde qui se dessine, il faut saluer effectivement le courage et la volonté de la Russie à travers le dynamisme de son président Vladimir Poutine, et aussi les grandes puissances comme la Chine, le Brésil et l'Inde qui se distinguent très hautement par leur clairvoyance d'un monde qui se veut beaucoup plus humain, et contrairement au monde occidental qui est resté dans le mimétisme avec des concepts contre nature. D'ailleurs, pour exemple, nous saluons au passage le raffermissement de la foi en l'humanité par son Excellence Poutine, en déclarant que le mariage ne peut se faire que entre un homme et une femme.
Et vous, Monsieur Mtembu, êtes-vous d'accord avec Vladimir Poutine sur la fin de la période du néocolonialisme ?
Je pense que l'Occident doit faire preuve d'une grande introspection. Je pense que pendant de nombreuses années, l'Occident s'est habitué à mener la danse en matière de politique mondiale. Il pouvait obtenir ce qu'il voulait assez facilement. Mais le monde a changé. Je pense que de plus en plus de régions du monde veulent faire entendre leur voix, prennent de l'assurance et ne veulent plus se contenter de subir leurs règles. Elles veulent aussi établir leurs propres règles. Je pense donc que l'Occident doit revoir sa position dans un paysage international en mutation et comprendre qu'il doit écouter davantage ce que les autres régions du monde ont à dire.
Monsieur Guéletou, êtes-vous d'accord avec le président russe sur la fin du néocolonialisme et sur l'arrogance de l'Occident ?
Oui, sans aucun doute. Nous vivons dans un monde où aucun pays, quelle que soit sa puissance économique et militaire, ne peut dominer le système mondial. Nous l'avons compris. Tous les pays, tous les dirigeants internationaux ont reconnu que le monde est devenu multipolaire, qu'il existe différents centres de pouvoir. Nous devons nous asseoir à cette table de discussion et de négociation pour assurer l'égalité de traitement des pays et des nations. Un groupe dominant les autres, réduisant au silence les voix alternatives et la diversité des civilisations et des pensées, des systèmes politiques et des systèmes économiques, ne peut perdurer dans ce monde globalisé, car il existe de multiples centres de pouvoir dans ce nouvel ordre mondial. Nous devons donc reconnaître ce fait et trouver un moyen de vivre avec cette réalité. Que ce soit à l'ouest ou à l'est, tout le monde doit en prendre conscience, procéder à une évaluation objective et discuter de ces différences. Plutôt que de créer des confrontations à partir de tensions politiques, nous devons résoudre les différends de manière pacifique. Le monde a donc changé. C'est une réalité. Nous devons le reconnaître.
Vladimir Poutine a exposé sa vision du monde futur basée sur des décisions collectives. Écoutons tout de suite le président russe.
La paix durable ne sera installée que le moment où tout le monde se sentirait en sécurité. Lorsque tout le monde va comprendre que ses intérêts sont respectés, lorsque l'équilibre régnera dans le monde, où personne ne pourra pas forcer les autres à vivre et se conduire de manière dont le dominateur désire. En niant toutes sortes même de notions de souveraineté qui est rejetée à la poubelle. Il est évident que le désir de protéger les approches des blocs et ce désir de se faire limiter par la confrontation nous et eux, c'est voué à l'échec. C'est un produit de la culture occidentale au moment de ses émanations les plus agressives. Je répète encore une fois, l'Occident a toujours besoin d'en ennemi. Une certaine partie de l'Occident, des élites occidentales, ils ont besoin d'un ennemi et la lutte contre lequel pourrait expliquer certaines actions expansionnistes. Cet ennemi, on en a besoin pour garder le contrôle antérieur à l'interne de ce système, à l'interne de ces blocs, soit le temps, soit autre bloc politique. Alors là, on a un ennemi et tout le monde doit se réunir autour du leader. C'est pas notre affaire comment les autres pays vivent. Mais néanmoins, nous voyons que dans plusieurs de ces pays, les élites à la gouvernance forcent la population à prendre les décisions que la majorité, et parfois la majorité écrasante, des citoyens ne veulent pas accepter. On les force à le faire en inventant continuellement des causes, en trouvant des causes externes à des problèmes internes, en incitant et en multipliant les causes et les menaces.
Monsieur Nabaloum, Vladimir Poutine s'est dit convaincu que l'humanité ne se dirige pas vers une nouvelle confrontation de blocs. Il a parlé de synergie des États et d'un monde futur basé sur des décisions collectives. Pouvez-vous expliquer sur quelle base pourrait fonctionner cette synergie entre États? Et dans quelle mesure cela correspond-il aux intérêts de l'Afrique, dont de nombreux pays sont devenus des participants actifs du mouvement des non-alignés et des défenseurs du panafricanisme, qui est également un projet largement synergique?
Je partage entièrement cette vision de son excellence Poutine, parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que la volonté de l'Occident d'être gendarme du monde ne peut plus s'exercer. Et aujourd'hui, le développement de l'humanité impose effectivement que les États puissent, d'une manière ou d'une autre, s'accorder sur leur volonté de travailler ensemble, qui va se caractériser véritablement par des partenariats de part et d'autre, tout en respectant la souveraineté et l'indépendance de ces différents États-là. Le moment d'État gendarme est complètement révolu avec le monde occidental. Il faut dire que cela avait été possible parce que l'hégémonie voulue par les États-Unis avec la houlette du monde européen, c'était justement la possibilité qu'ils avaient d'exploiter et surtout le continent africain et d'autres États qui ne connaissaient pas un niveau de développement économique à ce jour. L'évolution économique et de la technologie aujourd'hui, qui n'est plus le monopole du monde occidental et des États-Unis, et constitue un enjeu majeur aujourd'hui pour les pays émergents de pouvoir s'affirmer. Donc, cette synergie d'action s'est caractérisée par la création des BRICS, et la création des BRICS qui est un instrument très fort et un signal très fort montre déjà la fin du monde occidental, montre déjà la fin du monde unipolaire. Mais ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que les BRICS se caractérisent par ce multipolarisme-là qui respecte de façon consensuelle les grandes puissances chacun dans son environnement. Aussi, la synergie d'action entre ces grandes puissances.
Monsieur Nabaloum, vous venez tout juste d'évoquer l'intérêt des pays africains pour les BRICS. Vladimir Poutine a justement évoqué le cas de l'Algérie, qui, pour rappel, est candidate pour intégrer le groupe. Écoutons cet extrait.
Bien sûr, l'Algérie, c'est notre ami traditionnel dans le monde arabe au nord de l'Afrique. Et nous pensons que ce serait bénéfique pour l'association. Mais bien sûr, nous devrions étudier cette question avec tous nos amis dans le cadre des BRICS, en contact avec les dirigeants algériens, et le faire tranquillement, sans créer des problèmes pour l'organisation des BRICS, pour créer des chemins supplémentaires pour l'évolution supplémentaire.
Messieurs, le président russe a également énoncé 6 principes que recherche la Russie dans les relations internationales. Je vous propose d'écouter tout de suite le président russe pour en savoir plus.
Il est tout à fait normal qu'à l'époque des modifications majeures, il reste crucial de comprendre où nous allons. Et il est évident que c'est aujourd'hui que nous créons l'avenir, non pas sous nos propres yeux, mais par nos propres mains. Et évidemment, lorsqu'il s'agit des processus gigantesques et trop compliqués, il est parfois compliqué, voire impossible de prévoir le résultat. Quoi qu'on ne fasse, la vie va apporter ses modifications, va dire son mot. Mais au moins, il faut se rendre compte quel est notre objectif, où voulons-nous arriver. Et la Russie a cette compréhension. Primo, nous voulons vivre dans un monde ouvert, interlié, où personne ne va essayer de faire installer des barrières artificielles pour les relations entre les gens qui aspirent leur prospérité. Le milieu doit être sans barrières. C'est ça ce qu'il faut atteindre. Secondo, nous voulons que la diversité du monde soit non seulement conservée, mais servirait le fondement du développement. Imposer à tout peuple ou pays la manière de vivre, de se sentir, ça doit être interdit. Ce n'est que la diversité culturelle et civilisationnelle qui peut assurer le bien-être des gens et de leurs intérêts. Tertio, nous sommes pour la représentation maximale. Personne n'a le droit et ne peut pas gérer le monde pour les autres. Le monde futur, c'est le monde des solutions collectives prises à un tel niveau où ces solutions sont plus efficaces et avec la composition des acteurs qui sont en mesure de porter leur contribution importante à la solution du problème. Ce n'est pas un seul qui doit résoudre pour tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui doit résoudre chaque question. Les parties concernées doivent se concerter pour trouver la solution. Quatrièmement, nous sommes pour la sécurité universelle, le monde durable basé à des intérêts de tout le monde, à partir des grandes puissances jusqu'aux pays les plus petits, les pays émergents. L'essentiel, c'est de faire libérer les relations internationales de cette approche de bloc et cet héritage de la guerre froide et du passé colonial. Pendant des décennies, on proclame la nécessité d'assurer la sécurité indivisible et que la sécurité d'un pays ne peut pas être assurée au détriment de la sécurité des autres. Il faut rejeter l'arrogance et arrêter de regarder les autres comme des partenaires de deuxième classe ou comme des sauvages. ou des expulsés. Cinquième point, nous sommes pour la justice pour tout le monde. L'époque coloniale, c'est du passé. Les pays sont conscients de leur intérêt et leur capacité et sont prêts à fier à leur propre capacité, ce qui fait multiplier leurs forces. Tout le monde doit avoir l'accès à des biens du développement moderne. Et les tentatives de limiter cet accès doivent être considérées comme un acte d'agression. C'est comme ça. Sixième point. Nous sommes pour l'égalité, pour la différence des potentiels des différents pays. Il s'agit d'un fait tout à fait objectif. Mais ça reste aussi objectif que personne n'est prêt à la soumission, à poser ses intérêts à la dépendance des autres, des plus forts ou des plus riches. Et il s'agit d'une quintessence de l'expérience historique de l'humanité. Ce sont les principes que nous voulons suivre nous-mêmes et au respect desquels nous invitons tous nos amis et tous nos collègues.
Monsieur Nabaloum, Poutine a nommé 6 principes recherchés par la Russie dans les relations internationales. La diversité du monde, la représentativité, la sécurité universelle, la justice pour tous et l'équité. Comment la Russie pourrait aider, en se basant sur ces principes, l'Afrique à devenir une place forte de la géopolitique mondiale?
Ces principes cadrent fondamentalement avec l'être humain, d'abord dans son environnement, et donc l'État ou la nation dans l'environnement mondial. En ce sens que, véritablement, ce sont des principes de souveraineté, ce sont des principes de respect de l'autre, ce sont des principes qui caractérisent la volonté de nouer des partenariats, de nouer des collaborations pour servir d'abord son peuple et ensuite protéger sa nation, protéger son pays, tout en respectant les autres pays, tout en respectant les autres peuples. C'est comme ça que, en tout cas, personnellement, j'ai compris ces principes qui sont édictés que je partage très largement. Alors, les populations africaines, dans leur grande majorité, sont ont une culture très humaine et se retrouvent, en tout cas, se trouve forcément dans ces principes-là, les valeurs cardinales qui incarnent leur existence et qui gouvernent leur vision à travers ce monde. C'est pourquoi, lorsque ces principes sont promus, vous verrez davantage que les Africains vont se retourner de plus en plus vers la Russie. Parce que il y a des valeurs aussi que l'Afrique défend, même si l'Occident a tenté par le passé de régner et de faire régner par l'Africain ses propres valeurs. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se recentrer et promouvoir ces principes-là, c'est véritablement donner l'expression, la possibilité à l'Afrique de s'exprimer et de construire son devenir.
Monsieur Mtembou, lorsque Vladimir Poutine a nommé les 6 principes des relations internationales pour la Russie, il a mentionné l'inadmissibilité d'imposer à un pays ou à un peuple la manière de vivre sa vie. Pensez-vous que ce principe contribuera à éviter les conflits dans le monde s'il est respecté ?
Une partie du problème que nous avons rencontré au cours des 30 dernières années en matière de politique mondiale est que de nombreux conflits ont été le résultat d'une tentative de la part de certains pays de créer ou de refaire d'autres pays à leur image. Il en résulte une incapacité à respecter le développement historique, le contexte culturel d'autres régions du monde, des systèmes politiques différents, des idéologies différentes, des structures économiques différentes. Cela conduit à des conflits. Si l'on veut plus de stabilité dans l'ordre international, il faut donc plus de respect pour la différence, pour la diversité. Et je pense que c'est le message qu'il essayait de faire passer.
Monsieur Gueletou, le chef du Kremlin a cité parmi ses 6 principes la garantie d'un accès égal pour tous aux avantages du développement moderne. Il a également déclaré que l'un des principes était l'inadmissibilité d'imposer à un pays ou à un peuple la manière de vivre sa vie. Pensez-vous que ce principe contribuera à éviter les conflits dans le monde si nous l'introduisons réellement dans les les relations internationales ?
Ce sont de très bons principes et de très bonnes idées. C'est, du moins en principe, la pensée fondamentale qui sous-tend le fondement de la Charte des Nations Unies. Les rédacteurs de cette charte ont envisagé ce type de pensée et de réflexion. Mais avec le temps, ces principes ont été violés par la concurrence géopolitique entre les grandes puissances pendant la guerre froide. Par la suite, l'unipolarité du système mondial dominé par l'Occident a porté atteinte à ces principes. Mais ces principes, bien sûr, sont les fondements de l'humanité, des sociétés et des relations. Les États pourraient être stabilisés si nous organisions le système mondial de manière à ce que tous les pays, petits ou grands, soient traités de manière égale, équitable et juste, en bénéficiant des avantages économiques et politiques d'un bon système mondial globalisé. Ce sont donc de bons principes et je pense qu'ils fonctionnent. Mais nous avons besoin d'un engagement politique, en particulier de la part des grands pays, des grandes économies.
Messieurs, nous allons maintenant parler d'une autre thématique mentionnée par le président russe, le droit international. Écoutons-le tout de suite.
Presque tout le monde qui a l'audace d'être indépendant et de suivre ses intérêts, en un clan d'œil, devient un obstacle pour ces élites occidentales. Et les obstacles, il faut les éliminer. On impose au monde des constructions artificielles en format des blocs. On le voit en Europe où pendant des décennies, on voit progresser cette ligne d'extension de l'OTAN. De même, on voit en Asie-Pacifique et en Asie du Sud où on fait des efforts à briser cette architecture ouverte et inclusive de coopération. Cette approche de bloc, et il faut le dire honnêtement, il s'agit de limiter les droits et les libertés des pays pour leur propre développement. C'est le pays de les faire rentrer dans une cage des obligations. Il est évident, il s'agit de la reprise d'une partie de la souveraineté. Et ensuite, ce qui est le cas assez fréquent, leur imposer des décisions dans d'autres sphères, à part la sécurité et avant tout dans l'économie. On le voit maintenant dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Je pense qu'il est superflu de donner des explications. S'il le faut, pendant les discussions, on peut en reparler après mon intervention. Alors, à ces fins, on s'efforce à faire remplacer le droit international par un ordre basé à des règles. Quelles sont ces règles ? Qui les avait inventées ? On ne comprend pas. C'est rien. Ce sont des absurdités qu'on s'efforce à faire régner dans les esprits des gens. C'est quoi ça? Et si vous permettez, nos collègues occidentaux, avant tout nos collègues américains, ne se limitent pas à faire installer ces règles. Ils donnent des leçons à tout le monde. Comment faut-il respecter ces règles? Comment tel et tel pays doit se comporter? Et on le fait d'une manière assez hautaine. Ce fait toujours les effets de cet esprit colonial. On entend toujours « vous devez, vous êtes obligé, on vous prévient avec tout notre sérieux ». Mais qui êtes-vous? Qui vous a donné le droit de tenir les discours pareils, de lancer ces préventions? C'est étonnant. Peut-être ceux qui le disent, peut-être c'est le temps d'arrêter de se comporter ainsi, de quitter votre orgueil, votre morgue, votre arrogance. Peut-être c'est le temps de quitter cet esprit de l'époque de la dominance coloniale. On veut toujours leur dire, alors essuyez vos yeux, cette époque est terminée et elle reviendra jamais, jamais.
Monsieur Nabaloum, Poutine a dénoncé les tentatives de l'Occident de remplacement du droit international par des règles élaborées par on ne sait qui. Pouvez-vous donner des précisions pour nos auditeurs? Et comment cela s'observe?
Ça me fait très très rigoler, mais ce n'est pas véritablement une rigolade. Je prends le cas le plus récent qui est au Niger, où le président Emmanuel Macron a foulé au pied la lettre, le droit international, pour imposer, pour vouloir encore une fois de plus s'ingérer dans un État souverain, s'ingérer dans un État indépendant. Ça me fait encore rire aussi, parce que on a vu comment la France bat des pieds et des mains pour manipuler une institution comme la CEDEAO, pour instrumentaliser des dirigeants africains de se rebeller, et pas de se rebeller, d'entrer en guerre contre leurs propres voisins. Donc ça, c'est autant d'exemples qui montrent très clairement que le droit international, il n'est promu et il n'est respecté que lorsque il coïncide ou il correspond à la volonté de l'Occident. Dès que ce droit ne correspond pas à celui de l'Occident, alors il n'est plus un droit et ils peuvent se le fouler au pied à la lettre. Je prends encore un autre exemple, le cas du Mali, où le Mali a réuni des preuves contre la France, l'implication de la France dans le terrorisme au Mali, et le Mali a bien documenté et a apporté ses preuves à l'ONU afin que l'ONU puisse examiner ces différentes preuves-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas connu de situation d'évolution par rapport à ce dossier. Je prends encore l'exemple de la Libye. La Libye, où c'est une résolution du Conseil de l'ONU qui a créé tout le désastre et la désolation, l'hécatombe que vivent les Libyens aujourd'hui. Et cette même institution qu'est l'ONU aujourd'hui est incapable d'organiser la Libye pour qu'elle devienne un État normal comme avant. Et pourtant, c'est au nom de la démocratie que, à travers les lois internationales, on a mis ce pays véritablement, qui est devenu un champ de ruines, qui est devenu un champ de bataille, et non un pays et non une nation. Aujourd'hui, qu'en est de la viabilité de la Libye? Et je vais encore citer la Syrie. La Syrie qui a eu la chance que la Russie s'est imposée pour dire non. Et arrêtez votre jeu, on ne peut pas continuer comme ça à créer les foyers de tension dans ce monde-là. Halte, il faut arrêter. Et nous saluons cette vision de son Excellence Poutine qui a su à temps arrêter cette hécatombe-là causée par le monde occidental. Donc, c'est dire que l'Occident a mis un certain nombre d'institutions, un certain nombre d'instruments pour simplement exercer sa domination. Et lorsque ces instruments-là, on doit activer ces instruments contre l'Occident, alors l'Occident trouve que le droit international n'est pas à appliquer. On voit l'exemple le plus récent, c'est celui où effectivement, la CPI a engagé une procédure contre le président Vladimir Poutine, alors que bien avant ça, ni la guerre en Irak, ni la guerre en Libye, aucun dirigeant occidental n'a répondu de ces actes-là. Pourtant, ce sont des situations tristement célèbre en termes de mort, en termes de perte de qualité de vie. On a vu, lorsque on a demandé, la présidente de la Cour a voulu entendre des dirigeants américains, on a vu le ton qui est monté des États-Unis pour dire, ben écoute, on te retire tous les droits, et qu'est-ce que la CPI en a fait? Elle a fermé sa bouche, et aujourd'hui c'est elle qui s'est dit prête à sortir un mandat contre le président russe. Donc je pense que ce sont autant de situations que l'Occident a créées par le temps. Et aujourd'hui, tout le monde comprend que cette malveillance, cette façon de vouloir dominer le monde est véritablement révolue et il faille changer de paradigme complètement. Et tout récemment, au 78e sommet, la 78e Assemblée générale de l'ONU, nous avons tous suivi l'actualité à travers les allocutions des différents dirigeants du monde. L'ONU même, qui est le premier instrument, est menacée si l'ONU ne se recadre pas. Et là, c'est un appel que je lance aux pays du BRICS de redynamiser l'ONU afin de le redynamiser pour que l'ONU ne tombe pas. Parce que, vu l'évolution de la volonté des Occidentaux, s'il ne se recadre pas, l'ONU, qui est véritablement un instrument fort, risque de s'effondrer de lui-même.
Messieurs, Vladimir Poutine a également évoqué le conflit en cours en Ukraine. Écoutons-le tout de suite.
J'ai déjà dit plusieurs fois que nous n'avons pas commencé cette soi-disant guerre en Ukraine. Au contraire, on fait tout pour la terminer. Ce n'était pas nous qui avons organisé un coup d'État à Kiev en 2014, un coup d'État anticonstitutionnel, ensanglanté, où que ça se passe. On entend toujours tous les médias qui sont contrôlés par le monde anglo-saxe. Il ne faut pas faire comme ça, c'est antidémocratique, les coups d'État sont condamnés. Et là, c'était toléré. On a même déclaré le montant des fonds qui ont été déboursés pour organiser ce coup d'État. À l'époque, on s'occupait de soutenir les habitants de la Crimée et de Sébastopol. On n'a pas organisé ni orchestré un coup d'État. Ce n'était pas nous qui avons terrorisé les habitants de la Crimée et de Sébastopol en mettant en danger des purges ethniques. Ce n'était pas nous qui avons menacé de chasser tout le monde qui parlait russe. Alors là, tout le monde est bien informé, tout le monde est intelligent. On peut bien faire déformer l'esprit à des gens qui reçoivent les informations des masses médias. Mais vous savez ce qui s'est passé. Pendant 9 ans, on a bombardé, on a tiré des chars. C'était une vraie guerre contre le peuple de Donbass. Et personne n'a compté les enfants tués au Donbass. Personne dans d'autres pays, surtout à l'Occident, n'a pas versé une seule larme pour les victimes. La guerre que le régime de Kiev a commencé avec le soutien de l'Occident, ça ne date pas d'hier, c'est une dizaine d'années. Et l'opération militaire spéciale vise à mettre fin à cette guerre. Et ça nous rappelle que les pas unilatéraux, qui soit leur origine, inévitablement ont une réaction conforme. L'action fait naître la réaction. C'est comme ça que doit agir chaque État responsable, souverain, indépendant, qui a le respect pour soi-même. Chacun prend en considération que dans le système international où chacun qui se croit être le seul juste et le seul dominateur, chacun peut devenir la cible de ce dominateur, de ce hégémon qui a perdu le sens de la mesure, le sens de la réalité. Malheureusement, il est force de constater que nos partenaires occidentaux ont perdu ce sens de la réalité. Toutes les limites possibles et imaginables ont été dépassées. Il ne fallait pas.
Monsieur Nabaloum, Vladimir Poutine a déclaré que le conflit en Ukraine n'a jamais été provoqué par la Russie, mais que c'était la Russie qui y mettait fin. Il a ajouté qu'il était impossible de vaincre la Russie et que l'Occident le comprenait. Pourquoi les Occidentaux sont malgré tout intéressés à ce que ce conflit se poursuive ?
La Russie est un pays souverain et la Russie va toujours défendre sa souveraineté. C'est le cas comme le Burkina, comme le Mali, ce que nous faisons. Et dans ce monde, il y a les accords entre les nations, c'est même les relations humaines, il y a des accords. Et lorsque ces accords-là ne sont pas respectés, on est en droit de dire oui, d'exprimer et de dire clairement ce que l'on pense et ce que l'on veut. Et c'est ce que la Russie a fait et ce qui est tout à fait normal. Je disais auparavant que l'Occident avait deux messages, le message pour son peuple et le message qu'il adresse aux autres nations pour le même fait. Aujourd'hui, l'évolution de la technologie a permis à beaucoup d'Africains je parle parce que je suis africain, de comprendre que l'Occident est dans la manipulation. L'Occident manipule son peuple, l'Occident veut manipuler le reste du monde. Mais aujourd'hui, l'information étant disponible autant T en Russie, en Amérique, en France, en Chine et en Inde, ce qui fait qu'on ne peut plus manipuler les masses populaires. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Occident continue de faire la guerre? L'Occident sait qu'elle ne peut pas poursuivre cette guerre, mais il fallait la tenter parce que la Russie, à travers Poutine, avait donné des signaux forts en termes militaires qui caractérisent sa puissance. L'Occident, qui se croit toujours gendarme, qui se croit le plus fort, voulait donc tester la puissance de feu de Moscou. Et là, ils ont eu une réponse immédiate et sans contestation qui confirme sa suprématie militaire, sa force de frappe militaire. Donc aujourd'hui, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, ils ont compris que la Russie est une force militaire incontestable. Et on dit aussi que la guerre est un moyen pour refinancer l'économie. Donc, comme l'Occident n'avait pas aussi, les marchands d'armes américains et français n'avaient pas l'occasion de faire du chiffre à travers le monde parce que la Russie les en avait empêchés, notamment à travers la Syrie et tout récemment avec le Sahel où la Russie désormais s'impose pour dire non arrêté, non arrêté. Donc c'est eux pour l'occasion de venir directement engager le champ de bataille avec la Russie, et d'abord pour pouvoir rien fabriquer d'abord et continuer à avoir des revenus sur la vente d'armes et l'allocation de mercenaires. Oui, très bientôt ils vont arrêter la guerre parce que pour faire la guerre il faut des ressources, il faut de l'économie. Et aujourd'hui, la crise qui est en train de frapper l'Occident, il faille plutôt renégocier les conditions économiques, les partenariats économiques avec l'ensemble des pays que de vouloir aller dans une guerre où elle est pertinemment sûre qu'elle ne peut pas gagner cette guerre-là. C'est les populations européennes qui vont s'exprimer très bientôt et ça va être clair. On aura l'occasion de le constater que entre la volonté des politiques et la volonté populaire, c'est la masse populaire qui va toujours dicter sa volonté. L'avènement du multipolarisme à travers le regroupement des BRICS constitue un poids majeur pour la Russie et également pour les autres pays membres pour éventuellement contrer ce monde occidental-là. Parce que l'Occident sait que si la guerre se poursuit, alors les pays du BRICS risquent de s'aligner et ces pays du BRICS-là vont s'aligner derrière la Russie et l'Afrique tout entière va se aller avec la Russie. Et véritablement, il ne va rester que les quelques pays occidentaux qui de plus en plus même se divisent entre eux et puis les États-Unis. Donc c'est un échec, programmé pour eux. Maintenant, il faut reconsidérer, il faut renégocier avec les institutions du moment. Il faut renégocier les partenariats internationaux.
C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, Filani Mtembu, directeur exécutif de l'Institut pour le dialogue mondial, ainsi que Jafar Gueletou, directeur exécutif adjoint de l'Institut des affaires étrangères auprès du ministère des affaires étrangères de l'Éthiopie pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté le discours de Vladimir Poutine prononcé à l'occasion de la 20e édition du club de discussion du Valdaï. Après son discours, Vladimir Poutine s'est livré à une séance de questions-réponses, l'occasion pour le président russe de faire de nouvelles déclarations concernant la politique intérieure et internationale de la Russie. C'est également à ce moment précis que la chef du Kremlin a livré des détails sur la mort de Yevgeny Prigojine en août dernier. Écoutons dès à présent le président russe.
Toujours, il y a une question dans l'air, qu'est-ce qui s'est passé avec les dirigeants de la société? Nous savons ce crash qui a eu lieu, le crash d'avion, et le dirigeant du comité d'enquête a fait le rapport devant moi récemment, il y a quelques jours. Dans les corps des morts, on a trouvé des fragments, des grenades prévisées. Ce sont les résultats de l'expertise organisée par le comité d'enquête de la Fédération de Russie.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, notre émission spéciale sur Vladimir Poutine arrive à son terme sur Spoutnik Afrique. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Pour Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite aux commandes d'une nouvelle émission de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.